Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui sur In Power, on inaugure les épisodes à distance, étant donné qu'en cette situation particulière, je peux plus rencontrer mes invités. Mais on ne se laisse pas abattre et je souhaite vraiment pouvoir continuer à vous proposer des témoignages inspirants qui sont, je pense, plus que jamais nécessaires. On inaugure cette série d'épisodes avec Martin Petit, un jeune entrepreneur et créateur de contenu de 28 ans que vous connaissez peut-être sur Instagram sous le nom de El Marticino. Martin a commencé à partager sur les réseaux à la suite de son accident, survenu en août 2017, qui l'a rendu tétraplégique. Autant vous dire que c'est donc un épisode particulièrement fort qu'on a enregistré avec Martin, et je le suis vraiment reconnaissante d'avoir accepté de partager son parcours avec nous. Comment se reconstruire après un accident? Comment essayer de trouver un sens à sa vie et de se rendre utile? C'est ce qui porte Martin au quotidien et ce dans quoi il puise toute sa détermination. Si l'épisode vous plaît, vous pouvez vous abonner directement au podcast sur l'application que vous êtes en train d'utiliser pour recevoir les prochains épisodes. Vous pouvez aussi lâcher un petit 5 étoiles sur l'application podcast de l'iPhone, c'est ce qui me permet de savoir que vous l'appréciez, et un commentaire si le cœur vous en dit. Je les lis tous et ils me mettent vraiment du baume au cœur. Je vous conseille d'écouter cet épisode plutôt sur votre ordinateur, le son étant un peu plus difficile à capter que d'habitude quand on est à distance, mais je crois que j'ai compris les petites astuces pour avoir vraiment un bon son pour les futurs épisodes à venir. Et je suis ravie de vous inviter maintenant à rejoindre ma conversation avec Martin. Bon bah écoute, bonjour Martin.
Salut Louise.
Bienvenue sur In Power pour ce premier épisode à distance, vu que la situation me permet plus de te rencontrer en vrai. On a fait comme on a pu, mais dans tous les cas, alors moi en plus c'est marrant parce que j'avais vu que tu avais fait, je crois, une émission avec, enfin une vidéo avec Justine Hutto.
Ouais,
que j'ai reçu aussi sur le podcast. Du coup, ça m'a rappelé que en fait, depuis que je te suis, dans tous les cas, je voulais te recevoir sur In Power. Donc, est-ce que pour toutes les personnes qui nous écoutent, tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites?
Alors, je m'appelle Martin Petit, je vis sur Bordeaux. Bon, on aura l'occasion d'en reparler, mais je suis tétraplégique C6, C7, donc je suis tétraplégique, quoi, je suis en fauteuil. Et en gros, pour faire simple, on va dire que je suis auto-entrepreneur.
Ok, voilà. Ok, bah écoute, ça c'est déjà une super presse. Est-ce que peut-être tu peux nous en dire plus sur comment, enfin, où est-ce que tu as grandi, comment tu as grandi, qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petit, pour que déjà on ait un peu, enfin moi j'aime bien un peu connaître mes invités, savoir d'où ils viennent, parce que au final ça joue pas mal sur qui on est aujourd'hui.
Alors moi je suis originaire de Tours, donc je sais pas si les gens connaissent en Indre-et-Loire, dans la région centre. Donc, que dire sur moi? J'ai grandi dans un centre équestre, mon papa avait un centre équestre. J'ai une maman qui était cadre de santé au CHU de Tours. Donc voilà, j'ai grandi dans mon centre équestre, mes parents ont divorcé tôt. Donc en gros, j'ai fait toute ma scolarité à Tours jusqu'à mes 24 ans. Donc j'ai fait un bac économique et social. Mon parcours scolaire a été un peu malmené, j'ai galéré à avoir le bac, j'ai eu la deuxième fois, au rattrapage, etc. Ensuite de ça, à mes 19 ans, j'ai commencé à bosser au McDo, j'étais à la fac. Bon, inévitablement, la fac, ça m'avait pas trop plu parce que moi, j'ai besoin d'être cadré. Donc, j'ai fait une année de fac. J'avais eu mon premier semestre, mais j'avais pas eu le deuxième, ou je sais plus, j'avais pu continuer, je sais plus à l'époque. Et ensuite de ça, j'avais voulu reprendre un BTS en alternance. Donc j'avais trouvé en fait une alternance et une école. La seule chose, c'est que j'avais commencé mon mois d'essai dans l'entreprise dans laquelle j'avais été pris. Et au final, c'était du porte-à-porte, ça ne me plaisait pas. Donc j'ai arrêté. Donc toute cette année-là, j'ai bossé, j'ai fait pas mal de petits boulots, de l'intérim. J'ai bossé à Leclerc Drive et tout. C'était une année un petit peu compliquée parce que j'avais 20, 21 ans. Tu te dis, ouais, qu'est-ce que je vais faire de ma vie et tout. J'étais un peu perdu. Et à partir de ce moment-là, l'année d'après, j'avais repris un BTS. Dans une école privée, parce qu'évidemment avec les dossiers que j'avais, j'étais pas du tout accepté dans le public. Et du coup, j'ai repris un BTS en alternance dans une école privée sur Tours. J'avais, pour faire simple, fait une alternance chez Darty. Et là, je me suis pas mal révélé parce que ça s'est très très bien passé au niveau de mon BTS. J'avais des profs vraiment que moi j'ai apprécié et qui ont été vraiment présents dans ma vie au-delà du scolaire. Tu vois, j'ai une prof que j'ai eu au téléphone à plusieurs reprises parce que j'avais des petits soucis à droite à gauche et elle prenait le temps de m'écouter. Et du coup, le fait qu'elle ait pris le temps de m'écouter, ça me donnait aussi envie de redonner Tu vois, moi je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup à l'affectif. Et genre, si tu me donnes, bah, j'ai envie de te prouver les choses, j'ai envie de te donner les choses, j'ai envie de te. Donc voilà, ça s'est super bien passé. Donc j'ai eu mon BTS avec des très très bonnes notes et tout, ce qui n'avait jamais été le cas jusqu'avant. Donc voilà. Donc bon, bah, c'était cool parce que ça a été un regain de confiance en soi.
Ouais, et est-ce que avant que tu nous révèles la suite, est-ce que tu peux nous dire du coup pourquoi est-ce que tu penses qu'avant c'était pas le cas et tu t'épanouissais pas en cours? Est-ce que tu penses que c'est parce que ben, les matières t'intéressaient pas? Est-ce que c'était la façon dont on enseignait? Est-ce que c'est parce que tu savais pas encore ce que tu voulais faire de ta vie? Parce que je pense qu'avec le recul, ça peut aider peut-être des personnes qui sont dans cette situation aujourd'hui.
Alors je pense que déjà il y avait un problème de maturité, même si je pense que j'ai été vite mature sur plein de points. Sur celui-là, le plan scolaire, je sais pas, je me retrouvais pas. Je me retrouvais pas, je sais pas. En gros, il y avait des profs qui m'intéressaient pas, donc je m'intéressais pas à leurs cours. Et c'est un peu ce que je te disais, moi je fonctionnais à l'affectif, donc les matières où j'ai un peu mieux réussi, c'était les matières où voilà, j'avais une affinité avec les profs. Après, j'étais aussi un feignant, hein. J'étais jeune, je savais pas trop quoi faire, comme tu viens de me poser la question. Je préférais jouer à la console que de travailler mes cours. Et puis ouais, je m'ennuyais.
Bah non, c'est une vraie réalité, hein. Si les cours sont pas captivants,
C'est ça,
c'est dur d'avoir l'intérêt de suivre de manière assidue.
Et puis après, tu vois, c'est ça, genre, je te parlais de maturité, je me suis peut-être plus révélé aussi en BTS parce que voilà, j'avais l'âge que j'avais. J'ai galéré pendant 2 ans, donc peut-être tu t'es dit à un moment donné, bah faut aussi mettre un petit peu du tien. Et au final, je me suis rendu compte que en faisant quelques petites choses, tu pouvais améliorer ce que le système scolaire avant attend de toi. Moi, j'étais pas très scolaire, hein. Mais par contre, tu vois, genre en BTS, bah, je me mettais tout le temps devant. Je faisais, tu vois, j'écoutais vraiment les cours et je les travaillais pas forcément beaucoup à la maison. Mais juste le fait en fait d'être assidu en cours et d'écouter davantage et de te mettre devant, en fait, te mettre un petit peu une rigueur, bah ça m'a pas mal aidé, tu vois, genre à ce niveau-là. Et puis bon, après la rigueur, bon, on aura aussi l'occasion d'en reparler, je pense, mais je faisais beaucoup 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 de sport. Et du coup à cette période-là, en fait, en parallèle, je commençais la muscu. Et en fait, la musculation m'a vraiment apporté, enfin, je me suis révélé dans la musculation parce que bah ouais, c'était une rigueur que je pouvais aussi appliquer dans le champ professionnel, dans le champ scolaire, et puis voilà, dans le champ nutritionnel. Et en gros, toutes ces choses-là ont fait que bah, j'ai pris confiance en moi, que je me suis dit bah, je suis capable d'eux. Et du coup, bah, c'est comme ça qu'à force à mesure, enfin au fur et à mesure, j'ai pu m'améliorer. Donc après ça, j'ai fait mon ETS, que j'ai eu avec des bonnes notes, donc j'étais très satisfait de mon ETS. J'ai fait une licence pareil en alternance à Tours, en responsable du développement commercial. C'était un petit peu la suite logique de mon BTS MUC, donc management des unités commerciales. Et pareil, j'avais vu que j'avais, je pense, donné satisfaction chez Darty, il m'avait pris en alternance en licence. Donc j'ai fait ma 3e année, et puis après, bon, j'en ai eu marre du commerce, enfin, j'aimais ça, hein. Mais j'aspirais à autre chose, donc je ne savais pas trop quoi faire, je sais que j'adorais le sport. Il y avait des choses dans le marketing qui me plaisaient et du coup j'ai testé, enfin j'ai passé les concours de l'IAE, donc pour enfin le score IAE. En fait, c'est un score que tu passes sur plusieurs matières, je crois qu'il y avait culture G, français, anglais et maths, je sais plus exactement. Et en gros, donc il faut passer un concours qui te donne un score, et ce score, plus il est élevé, plus tu as des chances d'être pris dans le master que tu veux, dans l'école que tu veux. Et donc à l'époque, j'avais rencontré quelqu'un qui était sur Cannes. Et donc je regardais un petit peu ce qui se faisait du côté de Nice en termes de master à l'IAE, et il y avait management du sport. Donc là, je me suis dit, bon, bah, les gars, c'est pour moi ça. Donc j'ai passé mes concours. Bon, pour la petite histoire, j'ai vu un score qui n'était pas dégueulasse. J'avais vu, je sais plus, je crois, 227 sur 400. Donc quand tu passes les 200, apparemment, c'est pas mal. Et pour la petite histoire, j'avais pas été accepté en master. En fait, j'avais fait tout le dossier correctement, etc. Il m'avait pas accepté, donc j'avais pas lâché le morceau. J'avais appelé le directeur du master avec qui je m'étais déjà entretenu plusieurs fois. Et donc je lui ai demandé. Voilà, je comprenais pas pourquoi bah, j'avais pas été pris, dans la mesure où j'avais un score qui était pas bien, que moi c'était vraiment ce à quoi j'aspirais, etc. Et en fait, il m'avait reproché que. Je sais plus comment il m'avait dit ça, je me souviens, j'avais eu au téléphone, j'étais chez Darty à ce moment-là. J'avais même pris une pause moi-même, tu vois. J'étais parti dans la salle de pause, alors j'étais pas du tout en pause, tu vois. Et bon, c'était mon avenir qui jouait, donc bah, je m'étais un petit peu planqué dans la salle
C'est
de
clair.
sport et je l'avais appelé et je lui ai dit, je comprenais pas et tout, tu vois. Il m'a dit, alors c'est vrai que ça m'ennuyait de mettre votre dossier de côté, mais il me dit, voilà. Il me dit, et comment il m'a dit ça? Il m'a dit, en gros, ce qu'il me reprochait, c'est que j'avais pas fait des choses en lien avec le sport avant. Et je lui ai dit, écoutez, c'était un monsieur Huron. Je lui ai dit, écoutez, monsieur Huron, j'ai galéré toute ma vie dans ma scolarité. J'ai fait le nécessaire en fait pour reprendre mon BTS en alternance qui était dans une école privée, donc c'était payant. Je lui ai dit, moi, j'ai pris un petit peu l'alternance qui s'est offerte à moi, c'était Darty. Bon, j'ai eu de la chance que ça s'est très bien passé à Darty, que c'était une très bonne école. Et je lui ai dit, moi, j'avais pas les moyens de m'offrir un BTS, enfin, j'étais pas accepté dans le public, j'avais pas les moyens de payer un BTS enfin, tu vois, dans le privé, parce que je sais plus, c'était peut-être 4 000 euros l'année quand même, tu vois. Et mes parents n'avaient
Ouais.
pas les moyens de m'offrir ces études-là. Donc, du coup, je lui ai dit, bah voilà, moi, j'ai dû faire de l'alternance pour arriver à des objectifs. Et progressivement, bah voilà, moi, j'ai appris à me connaître. Et j'allais vers les choses pour lesquelles j'avais de l'affinité. Et je lui ai dit, bah voilà, ce master me plaît beaucoup. Et donc, du coup, c'est vrai que bah, je suis très déçu et tout. Et là, il me dit, je comprends et tout. Il me dit, bon, il me dit le mieux, il me dit, c'est que vous venez me voir à Nice et on en discute et tout. Quand est-ce que vous êtes disponible? Et je dis, bah écoutez, moi je travaille, donc ça va être galère. Mais je dis, écoutez, je m'organise et je viens la semaine prochaine. Et je sais plus, je l'avais eu peut-être le jeudi ou vendredi, et le mercredi ou le jeudi de la semaine d'après. J'avais pris un avion à cheval enfin j'avais pris un avion la veille. J'étais revenu le lendemain juste pour aller faire mon truc. Et du coup, il m'a accepté en master. Et du coup, bah, j'ai fait mon master à Nice.
Ok. Alors attends. Déjà, on va s'arrêter là parce qu'en vrai, c'est une super belle leçon de vie, je trouve. Non, mais moi, j'adore cette mentalité de faut pas s'arrêter à un an. En fait, c'est là où on voit au final un peu la force et la puissance de juste le fait qu'on soit sûr que c'est ce qu'on veut faire et qu'on va pas se laisser abattre. Alors que on pourrait se dire bah écoutez, il m'a refusé, donc c'est la vie et on passe à autre chose. Mais je pense que quand on tient vraiment à quelque chose, il faut sortir toutes les cartes qu'on a en main, voire créer nous-mêmes les cartes pour changer la donne. Et c'est trop cool que t'aies eu, que t'aies eu ce courage, parce qu'au final, ça demande quand même un minimum de courage que de se dire, non, je vais aller à l'encontre, en gros, de sa décision et je vais lui prouver que j'ai ma place, quoi.
Ouais, mais c'est ce qu'il faut faire. Et je pense que dans les études, c'est un peu ce qui est attendu quand t'es. Enfin, moi, j'ai eu plein de cas dans mon master qui étaient pareil, des parcours vraiment, mais qui avaient rien à voir forcément avec le master. Mais c'est des gens en fait qui ont vraiment, tu vois, donné la volonté. Enfin, tu vois, genre de. Enfin, ils ont vraiment prouvé qu'ils avaient envie d'être là. Et puis bon, après voilà, hein, moi j'avais. Ce master, il avait beaucoup d'importance pour moi. J'en avais un petit peu marre d'être à Tours. Je venais de rencontrer quelqu'un qui était à Cannes, donc bon, t'imagines bien que pendant un an c'était un petit peu compliqué de se voir, même si on arrivait à se voir régulièrement. Et du coup, voilà, moi c'est mon avenir qui joue, j'avais envie d'être avec cette personne, j'avais envie d'aller dans le sud-est. Tu vois, j'étais sportif, donc bah, clairement, à la Côte d'Azur, t'es près de la mer. Moi,
Ouais, c'est le kiff. Ouais.
j'adorais la course à pied, donc courir le long de la mer, c'était mon kiff. Voilà, je pouvais faire du sport dehors, enfin vraiment c'était vraiment tout ce que je voulais. Et du coup je me suis dit non, ça peut pas. Puis pareil, après à Tours je fais quoi, tu vois? Genre je reste à Tours mais genre je
Ouais.
fais quoi? Et en plus de ça, j'avais
Ouais.
vraiment postulé que ce master-là, parce que c'était vraiment ce que je voulais faire et je savais pas quoi faire d'autre. Et du coup donc bah, je me suis donné les moyens
Tu t'es donné les moyens, quoi. En même temps.
d'être accepté, ouais. Voilà.
Ok, trop cool. Et du coup, bah, donc, j'imagine que c'était en un an ou en 2 ans, du coup, ce master?
Alors c'était en 2 ans, mais bon après est arrivé le
Ouais.
grand fracas de ma vie.
Ah, d'accord, c'était à ce moment-là. Bah écoute, là, je pense que c'est le temps de nous raconter. Et ouais, dis-nous, en gros, ce qui s'est passé et peut-être, enfin, comment tu te projetais avant? VS, enfin, si tu avais déjà peut-être un plan plus précis, parce que bah, c'est toujours intéressant de savoir enfin comment rebondir et enfin voilà, quelle a été la suite derrière,
Il y a
quoi.
plein de choses à dire là. Alors, du coup, déjà, on peut commencer comme ça. Tu vois, genre, avant, je savais pas trop quoi faire. Genre, je me dirigeais plus. Toi, il y avait une salle de sport dans le sud-est, je voyais qu'ils prenaient en stage, j'essayais d'avoir des contacts et tout. Alors, je sais pas si j'aurais été accepté, mais toi, j'aurais bien aimé travailler dans le marketing dans une salle de sport. Parce que j'allais tout le temps à la salle et je me suis dit, ouais, bah, c'est mon élément, donc il faut que je fasse quelque chose là-dedans. Pareil, je commençais à me dire, est-ce que, tu vois, genre, je pourrais peut-être pas commencer à donner des cours en association de sport, parce que j'avais mon ex-belle-mère qui avait des contacts dans une salle, enfin dans une asso, et du coup, elle avait parlé de moi en fait, le président de l'asso, et puis tu vois, on commençait un petit peu à discuter de tout ça. Donc au début, je savais pas trop, etc. Donc bon, je me suis dit, voilà, pour le moment, tu vas finir ton master et puis tu verras bien après. Malheureusement, enfin, le 21 août 2017, donc soit 2 semaines avant la rentrée du Master 2, donc du Master 2 de Management du Sport, hein, la continuité du Master 1, j'ai eu un accident dans les Landes, à Seignos, où en fait j'ai plongé de ma hauteur au bord de l'océan. Donc en fait c'est une journée très simple, hein, je vais la raconter très simplement. J'étais avec des potes sur Osgore, qui travaillait voilà, enfin, au club de surf de Osgore. Donc le matin il bossait, l'après-midi on allait à la plage. Et il arrive, je sais pas, il devait être 17h30, 18h. Il faisait grave chaud et puis moi je me suis dit vas-y, je vais aller me rafraîchir. Et donc là je me lève de ma serviette, je commence à trottiner le long de l'océan. Et en fait je fais vraiment pas attention qu'il n'y avait pas suffisamment d'eau. Je plonge de ma hauteur, en fait tête la première dans l'océan. Et en fait, bah, il n'y avait pas de fond. Donc là, ma tête, elle tape le sable. Donc autant dire que le sable, sous l'eau, c'est du béton. Et en fait, je me fracture la cervicale C5. Donc je me fais comme un coup du lapin, si tu veux. En fait, j'ai une atteinte sur la moelle épinière. Pour ça, je la prendrai après. Hein. Et j'ai une atteinte, en fait, j'ai été touché sur la moelle épinière au niveau C6-C7. Donc ça aussi, C6-C7, je l'explique dans un petit peu sur ce que je fais sur les réseaux. C'est que souvent quand tu dis tétraplégique, les gens associent le mot tétraplégique au film Intouchable, qui est une personne qui bouge que la tête. Et en fait, c'est un peu plus complexe que ça, tu as différents niveaux de lésion. Et en fait, moi, tu vois, j'ai l'usage de mes épaules, de mes biceps, un petit peu de mes triceps, donc de mes bras. Et j'ai un mouvement du poignet, le releveur du poignet, qui me permet en fait d'avoir une pince. Et en fait, bah, voilà, il y a différents niveaux de tétraplégie. Et bah, en fait, j'ai une autonomie qui est beaucoup plus importante qu'un tétraplégique qui va être touché beaucoup plus haut. Donc bah voilà, j'ai mon accident dans l'eau, je commençais à me noyer, donc je suis resté 45 secondes, 1 minute dans l'eau, je pense. Et là, bah voilà, j'ai une vision où je vois mes bras qui flottent dans l'eau et je vois l'immensité de l'océan. Et là, je me dis, ça y est, mec, c'est fini, tu vois. Genre vraiment, je me suis dit, c'est la fin.
Donc t'étais encore conscient.
Ouais. En fait, j'ai une demi-seconde d'absence. Et ouais, genre. Et là, je me dis, ouais, genre, c'est fini, tu vois. Genre, je peux plus bouger, je peux plus rien faire. J'arrive juste à bouger la tête. Alors, parce que tu vois, genre, pareil, j'arrive pas à me souvenir, vraiment pas, de savoir si j'arrivais à bouger les bras à cette époque-là, pas à ce moment-là.
Ouais.
Et du coup, donc là, je commence à me noyer. Et je me souviens que j'essayais de sortir la tête hors de l'eau. Et tu vois, genre, je voulais sortir le mot qui me venait le plus. Enfin, que je pouvais sortir le plus rapidement. Et tu vois, j'ai le souvenir que quand j'étais dans l'eau, tu vois, le mot au secours, c'était en 2 mots, et help, c'était en un mot. Et en fait, dès que j'arrivais à
Ouais.
sortir la tête hors de l'eau, je criais de toutes mes forces help. Sauf que, bon, j'apprendrai plus tard que mon pote, en fait, il m'a jamais entendu. Je pensais qu'il m'avait entendu. Et en fait, non, j'ai un pote qui a eu le bon réflexe, il a vu qu'il y avait un truc qui allait pas.
En fait, du coup, ils te voyaient, ils étaient sur la plage et ils te voyaient encore
Bah,
debout.
heureusement. Mais en fait, heureusement, il était avec sa copine sur la serviette. Et heureusement, il faisait pas une autre activité ou autre chose, quoi. Parce que sinon, je suis pas
Ouais.
sûr que je serais là pour en parler. Et du
Ouais.
coup, lui, je sais plus, il était avec sa copine. Donc, c'est Sharon et Costa. Et genre, Sharon, je crois, a dit à Costa, lui dit, mais Martin, il fait quoi dans l'eau? T'as vu, c'est bizarre, il est dans l'eau, je sais pas trop quoi. Il me l'a raconté a posteriori. Ou attends. Non, c'est Costa qui demande à Sharon, ouais, Martin, il est. T'as vu, il est dans l'eau, je sais pas quoi. Et puis Sharon a dit, ouais, bon, tranquille, il doit faire comme les surfeurs, il se laisse porter dans l'eau et tout, tu vois. Et Costa, il se lève de sa serviette et en fait, il est venu me chercher dans l'eau. Et en fait, il me tire de l'eau, là, il commence à m'allonger sur la plage, là, on se prend une vague dans la gueule. Et après, il me dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Parce qu'il voyait que bah, genre, je répondais pas, tu vois. Enfin, j'avais juste la parole. Et du coup, je lui dis, ouais, je sens plus mes jambes et tout. Puis là, je commence à péter un plomb.
Ouais.
Donc on m'allonge le long enfin sur le sable. Là au même moment, t'as un médecin qui devait être tu vois, en vacances. Bon, il était très certainement en vacances parce que j'ai tendance à dire qu'il était en maillot de bain, donc je pense pas qu'il était en service. Et
Ouais.
du coup, il était en vacances et du coup, bah, il commence à me toucher les jambes. Il me dit là, je te pince ou je te touche. Et là, je lui dis, enfin, j'arrivais, je sentais qu'il me touchait et j'arrivais pas à faire la distinction. Donc, pareil, ça, on aura l'occasion d'en reparler aussi, c'est qu'il y a deux formes de tétraplégie ou paraplégie. Il y a complet et incomplet. Complet, t'as pas de sensation, t'as pas de contrôle moteur. Et moi, je suis incomplet. Donc, tu vois, je sens mon corps et j'arrive, enfin, j'ai eu un petit peu de récupération, j'arrive un peu à contracter des muscles à droite à gauche, mais pas suffisamment pour espérer quoi que ce soit. Donc, ça, pareil, ça s'est fait avec la rééducation, etc. Et bref, le médecin, donc il fait un peu le diagnostic. Je pense que lui avait compris à ce moment-là. Il commence à m'expliquer que c'est peut-être lié à un choc médulaire et que ça peut revenir. Bah moi, c'est ce que j'espérais, hein, forcément à ce
Ouais,
moment-là. Et
j'imagine,
puis,
ouais.
bon, bah là, en fait, il y a les secours qui arrivent, il y a l'hélicoptère qui atterrit sur la plage. Je suis héliporté à l'hôpital de Bayonne, donc l'hôpital qui a pris en charge voilà, mon hospitalisation. J'ai été opéré pendant 7 heures. Donc une opération en fait où qui visait à retirer la cervicale C5 qui était éclatée. Et en fait ils ont tout refixé avec une arthrodèse, ils ont pris un os de ma hanche pour reconstituer une cervicale, ils ont tout refixé avec une arthrodèse, donc c'est un bout métallique si tu veux. De façon à ce que voilà, en fait mes cervicales soient calées et qu'il n'y ait pas de problème par la suite. Donc voilà, donc là j'ai mon accident et voilà. Et après j'arrive en réanimation, tout ça, tout ça.
Ok,
Je sais pas si
donc ouais, ça fait déjà beaucoup, beaucoup à emmagasiner. C'est, enfin, en fait, la première question que je me pose, moi, c'est comment tu t'es senti au réveil et quand tu as compris quelle allait être ta nouvelle vie?
en gros, comment dire ça? En gros, il n'y a pas de un moment tu vois, où j'étais parce que bon, enfin forcément au début quand tu te fais opérer. Il te sédate de partout, t'es un peu dans un coma artificiel et tout. Et je me suis pas réveillé, t'sais, d'un coup, d'un seul, comme ça, tu vois, genre, tac, ça va, genre, je reprends mes esprits. Toi, ça s'est fait un peu progressivement. Donc, tu sais, c'est encore un peu. J'ai des. C'est un peu flou, tu vois, à ce moment-là. Par contre, ouais, le souvenir que j'ai, moi, quand je me réveille. Parce qu'apparemment, tu vois, genre, ma famille et tout était venu au début, j'étais conscient, sans être conscient, parce que moi, je m'en souviens pas. Donc, je leur répondais, apparemment, je leur disais bonjour, et puis, je sais plus ce que je faisais. Mais par contre, moi, le souvenir que j'ai le plus clair, c'est dans la nuit, en fait. Genre, je sais pas, il doit être 4 h du matin. Et dans la nuit, en fait, je vois qu'il y a comment on appelle ça? Ah, le bouton rouge, là. Une sonnette. Il y avait une sonnette, en fait, bah, tu sais, pour appeler le personnel. Donc, je
Ouais.
pense que j'avais très vite compris que ce bouton rouge pouvait m'amener un être humain dans ma chambre. Donc, en gros, j'ai appuyé sur le bouton parce que bah, je comprenais pas où j'étais. Et genre, bah, j'avais. Tu sais, je comprenais pas, j'étais intubé de partout. Forcément, plus conscient de mon intubation, c'est un truc qui est horrible.
Ouais.
Parce que c'est un respirateur, ça t'écrase la gorge, tu peux pas parler, c'est une machine qui te fait respirer. T'es branché de partout, tu vois des fils partout, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et en fait, j'avais besoin d'une présence humaine, donc j'appelais le mec. Et même, je me souviens, le gars, à un moment, il me dit, je sais plus, genre, le gars, j'ai dû l'appeler 10-15 fois dans la nuit. Et à la fin, il m'a dit, ça sert à rien d'appeler. Je pourrais pas venir tout le temps et tout, mais toi, t'étais dans un état de détresse de fou. Et puis aussi un truc, c'est que vu que j'avais le respirateur, en gros, vu que ça écrase tes cordes vocales, t'as pas la déglutition. Et en fait, t'as tes bronches, tout ce qui est dans tes bronches, etc., ça, les sécrétions remontent. Et toi, quand tu fais et que t'avales ta salive, ça tombe dans ton estomac. Là, moi, ça le faisait pas. Donc en fait, ça m'encombrait. Et en gros, dans ce moment-là, quand t'es gêné, ils mettent un espèce de tuyau. Tu vois, qui vont brancher au nez, là où, enfin, qui rejoint le respirateur, et en fait, ils aspirent les sécrétions. Et ça, c'était horrible parce que, genre, t'avais l'impression de t'étouffer. Mais moi, j'étais tout le temps gêné, donc en fait, j'appelais aussi pour cette raison-là. Et après, voilà, après, le souvenir le plus clair, c'est une interne qui rentre dans ma chambre et qui commence à me dire que je suis, bah voilà, que j'ai eu un accident, que je suis tétraplégique, ceci, cela. Et à ce moment-là, c'est vrai que je me souviens pas du tout de ma réaction, mais vraiment pas, tu vois. Je savais pas si j'étais dans un élément. Enfin, je savais pas si j'étais du genre. Si j'ai pleuré ou si j'ai dordi, c'est mort. Je serais tétra, mais genre. Je vais. Enfin, toi, je vais faire le nécessaire pour que ça revienne. Et bon, très vite après viennent les questions. Est-ce qu'on peut récupérer? Tout ça, tout ça. Donc là, il y a un neuro-rééducateur qui est arrivé quelques jours après. Ou je sais plus, après t'as un médecin qui a dû commencer à m'expliquer que voilà, il y a des formes de tétraplégie qui peuvent récupérer, que moi a priori je suis incomplet donc j'aurai des chances d'eux, mais qu'il faut, enfin qu'on sait pas en fait. En fait, on sait toujours pas expliquer pourquoi il y a des gens qui récupèrent et d'autres non. Du coup, bah voilà, il t'explique un petit peu tout ça. Après, je sais que très vite, j'ai été dans une démarche de me dire, bah, en fait, c'est mort, en fait. Genre, ça m'est arrivé à moi, il y en a qui récupèrent, bah, moi, je vais récupérer aussi, tu vois.
Ouais.
Donc, très, très vite, j'ai eu cette détermination aussi. D'ailleurs, tu peux aller sur mon Instagram et tu regardes le premier texte que j'ai écrit quand j'ai eu mon accident et tu sentiras toute la détermination que j'avais. Bon, après, il y a aussi ce que tu écris. Les forces que tu galvanises dans ce que tu écris, parce que tu te dis ouais, ça me porte et tout. Et après, il y a aussi la réalité qui est de te dire, bah, où tu doutes, j'ai douté, j'ai douté, j'ai douté, mais en fait, je me persuadais que j'allais récupérer. Et effectivement, après, j'ai eu le contre-coup, moi, quelques mois après, parce que je voyais que la récupération ne venait pas. En plus, j'ai eu pas mal d'espoir parce que je commençais à bouger un petit peu les doigts de pied, comme dans Grand Corps Malade, dans Patient, tu vois. Donc je me suis dit, ah bah, ça y est, je vais récupérer, je commence à bouger ma cuisse, je commence à bouger des trucs. Et du coup, j'avais l'espoir. Et en fait, 6 mois, 7 mois après, ça a stagné de fou. Et puis bon, bah, là, tu reprends un peu le revers de la médaille. Et là, tu prends un peu cher parce que tu dis, ouais, bah, la récupération, elle va pas être celle que j'ai espérée. Et il va falloir envisager les choses différemment. Donc là, il y a eu un long, long travail de résilience et de mental et ce que tu veux, quoi.
Qu'est-ce qui t'a le plus aidé et qu'est-ce qui t'aide le plus aujourd'hui justement à faire preuve de résilience?
Alors, c'est souvent ce que j'ai tendance à dire, que ce soit valide ou invalide, enfin valide ou voilà, une personne qui a des difficultés dans la vie. Le plus dur, c'est de trouver en fait des objectifs, des buts et d'atteindre des différents niveaux de toi-même, tu vois. Et genre au tout début, les différents niveaux de toi-même, enfin, les objectifs que tu te fixes, c'est dans les petits trucs que tu fais la journée, les trucs les plus improbables, tu vois, genre comme tu vois, les regains d'autonomie, savoir ce que tu es capable de faire avec ton corps, et puis après tu te fixes d'autres objectifs un peu plus lointains, enfin un peu plus enfin je sais pas comment expliquer, j'ai pas le mot.
Long
Enfin bref,
terme.
des Voilà, merci. Je cherchais le terme. Donc ouais, tu cherches des objectifs à plus long terme. Et du coup, la question, c'était quoi? J'ai perdu le fil, évidemment, comme d'hab, parce que je parle beaucoup. Je sais plus. C'était quoi ta
Ben
question
en
déjà?
gros, c'était qu'est-ce qui t'a le plus aidé et qu'est-ce qui t'aide le plus encore
Voilà.
à faire preuve de résilience?
Donc en gros, bah, au début, inévitablement, j'ai eu un soutien énorme. Donc que ce soit ma famille, mes amis, mes meilleurs potes, voilà. Et j'étais à Bayonne, j'étais quand même pas la porte à côté de Tours. Tous mes potes de Tours, ils sont venus. Enfin, tous mes potes sont venus. J'ai eu un tas de messages de dingue. Et en plus de ça, à cette période-là, j'avais mes amis et je crois il y avait ma famille et mon ex de l'époque qui avaient mis un message sur Instagram comme quoi j'avais eu un accident. Ils avaient fait un post. Et là, bah, autant dire que j'ai reçu des messages à tire-larigot. Que en plus de ça, bah, forcément entre le mode de vie un peu sportif, tu sais, un peu fit boy de l'époque, tu vois, du mec où tout semble aller pour lui, etc., qui a la belle vie, machin, machin, et le mec qui se retrouve en fauteuil, qui se retrouve tétraplégique, sachant qu'à ce moment-là, bah, la tétraplégie, tous les gens qui gravitaient autour de moi, enfin, même mes proches, tout le monde, hein, la tétraplégie, voilà, tu te dis, ouais, le gars tétraplégique, il bouge que la tête, tu vois, donc c'est un mot qui fait peur, et du coup. Du coup, bah voilà, tous ces gens-là ont donné énormément de soutien. J'ai reçu énormément de soutien sur les réseaux sociaux. Moi, je pense très sincèrement que les réseaux sociaux, ça m'a beaucoup aidé. Parce
Ouais.
qu'au début, genre, je postais pas grand-chose. Enfin, j'ai posté mon premier texte après, quand j'ai eu le portable, quand j'étais en réanimation, donc au bout de 15 jours, je crois. Là, j'ai vu que voilà, les choses parlaient, enfin, tout ce que je mettais, ça parlait aux gens. Moi, le fait de me sentir soutenu, ça me donnait aussi envie de faire le maximum. Et après, bon, j'ai eu une période où je mettais quasiment rien. Pendant, ouais, 2, 3 mois, j'ai rien mis sur Internet. Parce que bah, j'étais focus sur mon truc, sur ce qui m'arrivait, j'étais perdu, quoi.
Ouais.
Progressivement, j'ai commencé à expliquer ce qui m'arrivait. Bah, enfin, tu sais, genre, en fait, dans mon compte Instagram, tu peux vraiment voir les phases de colère, les phases de tristesse, les phases de tout ça. Parce que bah ouais, ça me faisait du bien d'écrire. Je suis quelqu'un qui aime bien écrire. Et ouais, j'écrivais sur ce qui m'était arrivé. Et au final, bah, t'as de plus en plus de gens qui ont commencé à lire ce que je mettais, à me soutenir. J'ai commencé à être relayé par des gros gros comptes et tout. Donc forcément, bah, ça t'aide, ça te fait du bien. Et puis, au-delà de ça, t'es enfermé dans un centre de rééducation, t'as pas trop de liens sociaux avec les gens, t'es enfermé dans ton quotidien, qui est un quotidien que tu découvres avec bah voilà, de la rééducation, dans un milieu hospitalier, avec des gens qui viennent d'avoir des accidents de vie de ouf, tu vois tout, tu vois des amputés, tu vois des grands brûlés, tu vois de tout. Enfin, tu vois, genre, t'as 25 ans, tu te dis où t'atterris, tu vois. Et
Ouais.
du coup, bah forcément, ça te permet un peu de t'évader, ça te permet un peu de parler à des gens et de te reconstruire. Et du coup, tu vois, là, pour répondre à ta question, je pense que les réseaux sociaux m'ont énormément aidé. Mes proches, ma famille, enfin voilà, mes potes et tout m'ont énormément aidé aussi. Moi, j'ai perdu personne dans mon accident, j'ai eu cette chance-là, hein. Après, je pense que
Ouais.
c'est aussi ce que tu dégages et c'est un peu ce que t'es avec les gens, hein. Si moi, je pars du principe que déjà dans toute ma vie, enfin depuis que j'ai compris ça, alors je pourrais pas te dire quand est-ce que j'ai compris ça, mais j'ai toujours été respectueux, j'ai toujours été bienveillant, j'ai toujours essayé de comprendre les gens et j'ai toujours semé des choses en fait dans. Enfin, toi, j'ai toujours voulu qu'on ait une bonne image de moi et en fait. J'ai toujours semé mes graines et en fait je pense que si j'ai eu tout ce soutien-là aussi, je pense que c'est pas lié forcément au hasard, tu vois, parce que bah, les gens ils m'appréciaient pour ce que j'étais et du coup bah ça a touché les gens et du coup bah les gens m'ont aidé quoi, donc bah c'est cool quoi, je m'en plains pas évidemment.
Ouais,
Donc
non,
voilà.
bien sûr, mais t'as raison, c'est, enfin, je connais des personnes qui ont perdu des proches, enfin, dans des périodes difficiles, et c'est vrai que c'est une vraie chance d'être entouré, parce que c'est clairement pas évident à surmonter. Et pour finir, juste du coup, pour tes études, j'imagine que t'as dû les mettre entre parenthèses. Est-ce que, enfin, tu as quand même essayé je sais pas, de terminer une certaine à distance, ou je sais pas si tu mets ça en place, ou si, enfin, si toi en tout cas tu préférais te concentrer sur la suite, et si tu as tout de suite en gros pensé à bah, qu'est-ce que je vais faire maintenant, et quel sera l'après?
Alors, c'est vraiment pas la question que tu te poses au début, même si au tout début de mon accident, je me souviens, enfin c'est ce qu'on m'a raconté, c'est que j'étais là à dire, les gars, j'ai ma rentrée dans 2 semaines, c'est mort. Faut que vous me répariez. Je dis, moi, je peux pas louper ma rentrée, tu vois. Et apparemment, j'arrêtais pas de répéter ça, je sais plus, sur la table d'opération ou dans, tu vois, sur le chemin des urgences ou je sais plus. Donc, c'est assez rigolo parce que moi, genre, je viens d'avoir un accident grave. Bon, forcément, tu réalises pas. Et du coup, toi, t'es là à te dire, ouais, mais faut que je fasse ma rentrée, en fait, je peux pas, c'est mort. Genre,
Ouais.
j'ai un master à finir. Et puis, on m'explique que bah, ça va pas se passer comme ça, que d'abord, il y a la rééducation et après, on verra la suite. Et effectivement, donc, bah, j'ai dû mettre en stand-by mon master 2 en management du sport à Nice. Sachant que j'étais à l'hôpital à Bayonne. Après, j'étais dans un centre de rééducation pendant 2 mois à Cambo-les-Bains. Et en fait, à la base, je devais aller dans le Var. Parce que pour la petite histoire, je devais rejoindre mon ex de l'époque qui habitait du côté de Cannes. Et du coup, en gros, je devais aller dans ce centre de rééducation-là. Sauf que on s'est séparés quelques mois après et du coup je me suis retrouvé ben, un peu perdu parce que j'avais fait toutes les démarches pour aller dans le Var qui était le département à côté des Alpes-Maritimes parce qu'il y avait un très bon centre de rééducation là-bas et ça me permettait de me rapprocher d'elle et pour moi c'était la seule chose qui restait de ma vie d'avant tu vois et du coup ben, ça s'est pas fait parce que voilà on s'est séparés. Et là, en fait, on m'a proposé d'aller à la Tour de Gacy, qui est un centre de rééducation à Bordeaux. Et j'étais complètement perdu. Donc j'ai dit, écoutez, je suis ce qu'on me dit de faire. Et puis voilà. Donc en gros, j'ai fait ma rééducation à Bordeaux. Donc à côté de Bordeaux, à Bruges. Et j'ai fait ma rééducation. Donc voilà, ça a duré, en gros, toute l'hospitalisation, elle a duré 11 mois. Et ensuite de ça, au bout de quelques mois après mon accident, tu vois, quand j'ai eu la phase de la plus compliquée pour moi et je me suis dit bon bah faut quand même que je fasse quelque chose qu'est-ce que je fais tu vois et du coup je regarde l'IAE Bordeaux je vois qu'il y a un master en marketing j'ai dit bon vas-y tu tentes tu verras bien je dis tente et donc je fais je sais plus je fais ma lettre de motive tu sais j'avais récupéré un petit peu la pince donc j'arrivais à tenir mon stylo tu vois j'ai écrit une lettre de motivation en 1 heure et demie quand j'en aurais mis 10 minutes avant tu vois. Tu vois, j'étais déjà déterminé et du coup, j'ai envoyé ma lettre, j'ai fait tout le dossier, machin. Je me souviens, j'arrive à l'entretien. Il commence à me donner un papier avec un crayon. Je lui dis, ah, ça va être compliqué pour noter toutes mes idées, tu vois. Mais parce que, bah ouais, on n'était pas préparé. Et puis, j'avais pas pu dire que j'étais en fauteuil et tout. Et puis, je l'avais pas forcément dit. je l'avais pas en fait je l'avais glissé très subtilement dans ma lettre de motivation.
Ouais.
Et puis parce que je voulais pas que ça soit ça qui fasse, enfin je voulais pas que ça soit l'élément
qui influe leur décision quoi.
Voilà, c'est ça. Et en gros, je l'ai glissé subtilement. Par contre, effectivement, j'avais mon responsable de master en management du sport, monsieur Huron, qui était mon responsable de master à Nice. Et je me souviens de lui avoir demandé est-ce que vous pourriez faire une lettre de recommandation et tout. Il m'a fait une lettre de ouf. Et donc, du coup, je pense que ça a joué énormément. Et ça a joué parce que même à l'entretien, il m'a dit ouais, bah, ça m'a beaucoup touché la lettre que ce monsieur m'a écrit parce que bon, c'est son confrère de Bordeaux, tu vois. Et donc, j'ai été accepté. Donc, voilà, j'ai fait un master en marketing à Bordeaux à la fin de ma rééducation. Donc, ça a été cool parce que j'ai pu prétendre un logement universitaire dans lequel je suis toujours. Mais tu vois, je vais avoir mon appart le 26 mars. Mais avec le confinement, j'ai pas pu emménager, forcément. Donc, ça me fait un peu chier, tu vois, ce que je suis obligé d'attendre. Ouais. Et du coup, voilà. Donc, là, je suis dans cet appartement-là depuis un an et demi, un peu plus d'un an et demi. Et du coup, voilà, j'ai fait mon master en marketing sur Bordeaux pour plusieurs raisons. C'est un truc dont j'ai jamais parlé, donc c'est un peu une exclue, tu vois. C'est que j'ai eu mon deuxième semestre, enfin j'avais toutes les notes, sauf que j'ai pas rendu mon mémoire pour plusieurs raisons. Bon, j'ai pas forcément envie de les évoquer là, parce que voilà. Mais en gros, j'ai pas rendu mon mémoire, on m'a proposé le redoublement. Et pour repasser un mémoire, il fallait refaire un stage de 6 mois et tout, et voilà, j'ai 28 ans, je me suis dit maintenant, moi j'ai envie d'avancer dans la vie, j'ai pas envie de rester toute ma vie dans les études, dans les stages. Je sais à peu près ce que je veux faire. Je sais un petit. Je fais. Enfin, toi tout à l'heure, je te disais, depuis que j'ai mon accident, je sais plus où je vais que avant. Avant, je savais pas trop. Et maintenant, tu vois, avec tout ce qui se passe, tout ce que je fais, tous les gens que je rencontre, je sais qu'il y a des choses à faire dans plein de domaines, notamment dans le domaine du handicap. Mais voilà, je sais que le fait de m'investir dans ce domaine-là, ça va. Voilà, hein, tu connais, hein, t'es sur les réseaux aussi, ça peut apporter plein d'opportunités. Et voilà, j'ai fait un peu de marketing. Après, le marketing pour moi, c'est plus une question de bon sens que d'avoir des diplômes. Donc c'est pour ça que je me suis dit, est-ce que le diplôme va vraiment me servir? Je suis pas sûr. Et du coup, j'avais pas envie de me prendre la tête à refaire un mémoire, hein, ceci, hein, cela. Donc j'ai lâché l'affaire et puis bon, au-delà de ça, ce que j'ai jamais trop pris le temps d'expliquer à tout le monde parce que j'ai rarement l'occasion de le faire et puis c'est un peu long de le faire, c'est que pour moi en fait les études ça a plus été une porte de sortie du centre de rééducation, ça a été une école de la vie entre guillemets, plus qu'un diplôme pour moi, parce que bah, ça m'a permis en fait juste de me resocialiser, de reprendre une vie entre guillemets normale, d'avoir un appartement, de pouvoir... réenvisager des sorties dans la ville de manière normale, parce qu'en fait quand t'as un accident comme ça, le plus dur c'est bah t'as la phase de rééducation et puis après t'as la phase où, parce qu'en rééducation t'es materné, hein, t'es dans un centre de rééducation où tous les gens qui sont autour de toi c'est des gens qui connaissent, tu vois, quand tu te retrouves dans la rue t'as le sentiment d'avoir des regards sur toi, bon ça pareil ça s'est vite atténué parce que moi j'ai vite arrêté de me prendre la tête avec ça, mais c'est vrai qu'au début bah tu te réappropries déjà ton corps, donc comment il fonctionne etc. pour mieux le gérer. Tu te réappropries ta manière d'interagir avec les autres. Parce que bah, avant, je faisais de la muscu, je faisais 1m80. J'avais mon physique, entre guillemets, qui a imposé plus que maintenant, inévitablement. Donc, je me suis construit avec cette image de moi-même. Les gens, ils me parlaient d'une telle manière. Et bah, là, je parle à des gens qui sont debout, qui me parlent de haut. Tu sais, tu te sens intimidé, même si... Enfin, tu vois, genre, tu dois vraiment te reconstruire toute ton image, etc. Et pareil, tu vois, quand tu prends les transports en commun, bah, t'as le sentiment au début que les gens te regardent, etc. Bon, maintenant, j'y prête plus du tout attention. Et du coup, vu que j'y prête plus attention, j'ai plus le sentiment qu'on me regarde parce que pour moi, c'est juste que je roule au lieu de marcher, tu vois. Mais tu vois, genre, c'est tout un processus qui est hyper, ouais, ça met du temps, tu vois. Genre, ça met du temps, c'est compliqué parce que ça peut être dur pour certains psychologiquement. Moi, je pense que j'ai la chance que ça m'est arrivé à un âge où j'avais une certaine maturité, où j'avais déjà fait un peu mes armes sur le plan professionnel, sur plusieurs plans personnels, etc. Donc j'étais un peu armé et du coup bon bah voilà, j'ai mis un peu les outils que j'avais en ma possession au profit de cette nouvelle phase de ma vie, tu vois. Et puis voilà.
Ok. Bah écoute, il y a aussi un sujet que je voulais aborder avec toi parce que quand on te suit sur Instagram, on voit que tu es aussi le cofondateur de Bootleg.
Ouais.
Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est, quand est-ce que tu l'as créé et ouais, enfin, comment l'idée t'est
Comment
venue et ce que tu imagines pour la suite?
Alors, c'est très simple. En fait, quand j'étais chez Darty, je faisais souvent partie. Bon, on avait des challenges et tout. Donc, fallait te, tu sais, t'avais des items où fallait te vendre le plus de ci, de ça, de machin. Des garanties, des assurances, des abonnements de téléphone, des abonnements internet. Et tous ces items-là te mettaient dans un tableau enfin, un tableau des meilleurs vendeurs de la région. Et donc, souvent, je faisais partie des meilleurs vendeurs de la région parce que, bah, pareil, je me rendais compte que je pouvais être très bon, tu vois. Sans forcément être en faire trop. Parce qu'en fait, à partir du moment où tu as compris la mécanique, tu as compris comment les gens ils interagissent avec toi, tu as compris comment parler avec eux et tout, genre, tu peux devenir. C'est facile, en fait, d'être un vendeur. Enfin, après, c'est facile. Je sais pas. Après, je pense que c'est aussi un peu inné, tu vois. Pour moi, c'est comme le marketing, c'est du bon sens, tu vois. Il faut que tu donnes ce que. Et en bref, en gros, parce que bon, on va parler de bootleg, en gros, je faisais souvent partie des meilleurs vendeurs, et à l'époque, j'avais un autre vendeur du Darty de l'autre côté de la Loire, parce que moi j'étais à Tours Nord et lui était à Tours Sud, faisait partie aussi des meilleurs vendeurs. Et en fait, Geoffrey, c'était un mec bah, que je voyais, tu vois, qui était tout le temps là en train de bad sur des trucs et tout. Je me suis dit, putain, mais lui, il est trop fort et tout. Et en plus, ça faisait pas longtemps qu'il était arrivé chez Darty. Et je sais plus, en fait, j'ai eu l'occasion d'aller le voir une fois parce que je devais aller récupérer un truc à Tours Sud, au Darty, et on a commencé à discuter, et puis bon, on avait pas mal accroché. Et puis bref, on s'était vu de temps en temps à Tours quand on sortait, machin. Et bref, bah, après, moi j'étais parti à Nice faire mes études, j'ai eu mon accident, tout ça, tout ça. Et en fait, je me souviens, Geoffrey, quand je suis sorti du centre de rééducation, il vient me voir, il me propose d'aller boire un verre, et il commence à me parler qu'il a un projet d'une appli, machin et tout. Et en fait, il me parle de bootleg. Et là, je me dis, putain, mec, ton idée, elle est trop bien, tu vois. Et du coup, je sais plus, à ce moment-là, on rentre chez moi, il me raccompagne chez moi, on commence à discuter, je sais plus, je crois le soir, on mange ensemble. Et là, je dis, mais du coup, est-ce que vous chercheriez, enfin, tu recherches pas quelqu'un pour bootleg, tu vois, genre des associés et tout, pour investir et tout. Il me dit, bah, si et tout. Enfin, il me dit, pourquoi et tout, tu serais prêt à mettre combien, machin et tout. Bref, on discute. Et en fait, l'idée à la base, elle est surtout née de Geoffrey, où typiquement on a pris une idée qui avait lieu aux États-Unis, mais nous on voulait proposer une application encore mieux faite, enfin mieux réfléchie, etc. Donc on a proposé cette application. Donc bon, je la fais très courte. En gros, c'est une application maintenant où on a un abonnement gratuit qui donne droit à un verre acheté égal à un verre offert dans des établissements partenaires. Donc ça va du verre d'alcool au soft, au café, au chocolat, au thé. Voilà, et on a plusieurs établissements partenaires. On est sur Bordeaux, Toulouse, Tours, Le Mans et Montpellier. Pareil, là, on est en train de réfléchir en cette période de confinement sur savoir ce qui marche le mieux, parce que bon, on s'adapte aussi à la cible. Et en fait, bah voilà, ça, je l'ai créé en parallèle de mes études avec lui, avec les compétences qu'a Geoffrey, avec les compétences qu'a David, qui est notre autre associé, qui lui gère beaucoup plus la partie administrative. Toi, c'est un chef d'entreprise de. Enfin, toi, c'est un gérant de plusieurs établissements sur Bordeaux. Enfin, tu vois, le gars, il connaît tout ce qui est compta, etc. Donc, bon, c'est un très très bon élément. Geoffrey, il est très bon commercial. Et puis, bon, bah après, moi, j'essaie de jouer de mon réseau, jouer un peu de ma visibilité sur les réseaux aussi. Et voilà, donc ça, en fait, on a créé tout ça en parallèle de quand je suis sorti du centre de rééducation. Et voilà, en gros, on a créé ce truc-là, quoi.
Ok,
Donc voilà,
bah ouais, trop cool.
ça fait un an qu'on est sorti. Et là, je te dis, on est en train de revoir avec la période de confinement comment on peut améliorer l'offre, quelle est l'offre qui marche le mieux, et puis voilà, quel service on peut proposer au mieux. Et on essaye de revoir tout ça pour que ça plaise au maximum et qu'on puisse espérer en faire quelque chose, quoi.
Et du coup, comment est-ce que tu répartis ton temps aujourd'hui? Enfin, bon, pas en cette période de confinement, vu que c'est clairement particulier,
Ouais.
mais sinon, le reste de l'année, entre bah, tes, voilà, ta création de contenu, entre le temps dédié à bootleg, peut-être à d'autres activités, comment est-ce que tu t'organises un peu au quotidien?
Ben alors, moi j'ai l'avantage, c'est que vu que je suis un peu, enfin, je suis à mon compte, tu vois, genre je fais vraiment comme je l'entends, donc je m'organise vraiment comme je veux.
Les garçons, ils m'ont jamais saoulé. Tu vois, genre, il y a des périodes où je vais plus m'investir, il y a des périodes où chacun est un peu dans son truc et voilà, on laisse un peu couler. Et tu vois, ils m'ont jamais saoulé en me disant bah, t'en fais pas assez à ce moment-là, ou ceci ou cela. Donc après, moi, mon temps, je l'organise vraiment comme je veux. Après, par rapport à mes créations de contenu, je vais être très honnête, hein, genre moi, je suis pas là à me dire faut que je poste tous les jours, à telle heure et tout. Genre, moi, je poste vraiment au feeling. Genre, des fois, je peux poster à 8h du matin, des fois à minuit, des fois à 16h, des fois à midi. Enfin, je suis pas là, tu vois, parce que. Quoi, le nombre... Moi, j'ai une phrase d'une abonnée qui m'a dit une fois, je trouve qu'elle est très très juste. Il me dit. Enfin, moi, je vais pas expliquer pourquoi on a parlé, mais bref, c'est un feeling qui a bien passé. Et en gros. Si, je vais dire pourquoi, allez. en gros, elle avait son mari qui avait des problèmes de. Qui avait une maladie ou une pathologie quelconque, je sais plus laquelle exactement. T'as une personne qui me suivait, son mari avait la même pathologie que la personne qui m'avait écrit. Et en fait, tu vois, genre les deux personnes ont commencé à discuter, et la personne qui m'avait écrit initialement m'a dit « Merci Martin, parce que du coup, bah, je me rends compte que bah, des réponses à laquelle j'avais pas de questions parce que c'était tout récent pour eux, bah, j'ai eu des réponses, et en plus de ça, bah, il y a des trucs qui sont positifs pour la suite, parce qu'apparemment, voilà, ils auraient trouvé ça, ça, ça. » Et la personne qui avait vu ça dans ma story avait contacté l'autre personne pour discuter. Et puis, bref, j'ai juste fait de la mise en relation. Et tu vois, pour moi, c'est ça, les réseaux. C'est de la mise en relation pour des choses qui ont du sens. Donc, c'est un petit peu... Bon, tu vois, genre, je te suis depuis pas très longtemps, mais c'est un peu ce que tu fais, toi, par rapport à plein de causes diverses et variées dans tout ce que tu proposes. Et moi, pour moi, les réseaux sociaux doivent servir à ça, tu vois. Mmh. Et du coup, donc, il s'est passé ça. Et bref, cette personne, pour revenir à la phrase qu'elle m'a dit, tu sais Martin, ce qui compte, c'est pas le nombre de likes, c'est pas le nombre de commentaires, c'est pas le nombre de partages, c'est pas le nombre d'abonnés. Elle m'a dit, ce qui compte, c'est ce qui reste dans la tête des gens. Et en fait, à partir de ce moment-là, parce que oui, en fait, tu vois, j'ai eu cette pression de me dire, ouais, j'ai moins d'engagement et tout, et puis on a vu, l'algorithme, il a grave changé. Genre, avant, je tapais du 8000 likes sur mes photos, si je mettais une photo de mes pieds en mettant un texte. Maintenant, si je tape 3000, 4000, je suis content, tu vois. Donc je sais pas comment l'expliquer, et puis j'ai arrêté de me mettre la pression à partir du moment où elle m'a dit cette phrase, parce que je me suis dit ouais, en fait elle a raison, tu vois. Pff, ça sert à quoi de se prendre la tête? Ce qui compte, c'est vraiment les gens qui ont la même volonté que toi. Alors après, oui, c'est du travail de communiquer, parce que il faut à la fois trouver un équilibre entre préserver sa vie privée, dire les choses, en dire aussi, parce que les gens, c'est aussi, ils veulent savoir un petit peu, savoir comment tu t'es construit, donc ça les intéresse, tu vois. En fait, pour le moment, c'est plus des étapes à franchir. Et tu vois, là, bah, effectivement, je pense que quand j'aurai mon appartement, je vais pouvoir vraiment être beaucoup plus organisé sur le temps que je vais allouer à chaque tâche, sur ce que je vais faire. Moi, j'ai envie de reprendre aussi le sport que j'ai pas eu l'occasion de reprendre depuis mon accident. Et tu vois, j'ai envie de me dire, bah voilà, je fais ça à tel moment. Tu vois, pareil, j'avais créé ma chaîne YouTube il y a un an à peu près, je crois. Et bah, pareil, tu vois, j'ai envie de me dire, bah, j'ai envie de faire une vidéo toutes les semaines ou toutes les deux semaines, créer du contenu, faire des choses, et je sais que tout ça, en fait, ça t'ouvre des portes, ça t'ouvre des opportunités. Et tu vois, quand on parlait de donner du sens à ta vie et d'objectifs, moi, je redonne du sens à ma vie dans le fait de me sentir utile. Là où, en réanimation, ma première pensée, c'était de me dire bah, je ne sers plus rien à la société, tu vois, parce que je suis capable de rien. Et au final, bah, tu te rends compte que tu peux vivre, en fait, en fauteuil. C'est pas toujours facile, il y a des moments galères. On m'a reproché à plusieurs reprises des gens qui sont dans ma situation, que je magnifiais le handicap, que je donnais une image trop positive, que je donnais une réalité qui était un peu erronée. Sauf que c'est aussi tout le travail de communication, comme ce que je disais tout à l'heure. Le plus dur, c'est de bien communiquer. Et je pense que moi, j'essaye à la fois de me préserver, parce que j'ai pas envie de dire toutes mes galères, parce que te dire que tu te chies dessus ou que tu te pisses dessus, je pense pas que ça fasse avancer le débat. Par contre, de l'amener de manière intelligente de temps en temps dans tes posts Instagram, ou dans des vidéos construites sur YouTube, là, ouais, tu vois, de le faire de manière intelligente, je trouve ça bien.
Et ouais, je sais ce que tu veux dire.
Petit ruisseau forme les grandes rivières. Et je me dis que, bah voilà, si je donne l'idée de quelqu'un de penser au handicap, bah peut-être que demain, le mec, il va ouvrir une boulangerie, il va se dire, ouais, je veux faire venir un mec comme Martin dans ma boulangerie, bah je vais acheter une rampe pliable, ça vaut de 300, 400 balles, et bah je peux accueillir des handicapés. Et en fait, tu vois, genre, tous ces petites choses mis bout à bout, tu vois, si ne serait-ce que je fais naître l'idée dans la tête d'une seule personne, pour moi, c'est une victoire, tu vois.
Carrément, si, non, hyper puissant.
Et que ça soit des valides, ou que ça soit des gens qui sont en train de déprimer au centre de rééducation, si je peux leur donner juste un regain d'énergie pour aller de l'avant, bah, c'est une victoire aussi, tu vois. Quand je reçois des messages de mecs qui sont en fauteuil, qui m'envoient des messages, des fois, j'en chialerais presque, hein, tu vois.
Ouais, je connais ça. J'ai un dossier où j'ai je capture les plus beaux messages que je reçois et qui me touchent. Ça aide toujours. Ouais. C'est clair, c'est la plus belle des récompenses. Hein. J'ai deux petites dernières questions pour toi, Martin. D'abord, est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement touché, aidé, que tu voudrais conseiller aux personnes qui nous écoutent?
Alors, je suis pas un ouf de lecteur. Après, j'essaie de m'y remettre. Mais des livres qui m'ont aidé, franchement, j'ai puisé partout, mais vraiment partout, donc dans des livres. Après, tu vois, genre, il y a des livres que je vais lire des fois qui sont un peu compliqués, donc je vais lire un peu en diagonale et tout. Et tu sais, je retiens une idée, et l'idée, après, moi, tu sais, je la développe dans mes écrits. Enfin, tu vois, genre, un livre, je le lis pas comme ça de but en blanc, tu vois, genre... J'essaie toujours de lire entre les lignes, de dire qu'est-ce que ça m'apporte, etc. Mais après, j'ai lu plein de livres, j'ai lu des livres de... Enfin, j'en ai lu plein, pas de ouf non plus, hein, ce que je te dis, je lis pas énormément, mais tu vois, bah, au début, j'ai lu le livre de Grand Corps Malade qui était patient. J'ai regardé le film parce que je cherchais des réponses. Donc, c'est un film, enfin voilà, c'est un témoignage plus qu'un livre qui te donne des ressources. Après, t'as des livres de Paulo Coelho, c'est ça, qui est un écrivain d'Amérique du Sud, alors je sais plus quel pays exactement, tu vois, donc qui a écrit, je crois, Le guerrier de la lumière, je sais plus trop quoi. Et puis bref, il a une image, il a une écriture que j'aime bien, qui te donne des idées, qui galvanise des forces en toi. Après, moi, je m'inspire beaucoup de gens hyper inspirants qui ont marqué l'histoire. Nelson Mandela, Mohamed Ali, Martin Luther King. Je me suis inspiré de gens qui sont moins connus, qui sont devenus des copains. Tu vois, j'ai un copain à moi qui est conférencier, qui s'appelle Axel Alétru. Et lui, c'est un paraplégique qui a eu la chance d'avoir une bonne récupération. Et il parle de la résilience, de la force mentale. Et tu vois, lui, il avait fait un TEDx, et son TEDx, je l'avais regardé, j'avais kiffé de ouf, je me souviens, j'étais en centre de rééducation, c'était au tout début. Et c'est même lui, quelques mois après mon accident, qui m'avait contacté. Il était venu me voir au centre de rééducation, on avait tourné une vidéo ensemble. Et tu vois, le mec, c'est devenu un copain, il vient d'avoir un enfant, il m'a envoyé un faire-part. Enfin, tu vois, genre, c'est génial, super, tu vois. Genre, encore une fois, les réseaux sociaux, pour ça, c'est ouf. Après, il y a aussi un monsieur qui s'appelle Boris Cyrulnik, qui est un psychiatre, qui a beaucoup écrit sur la résilience. Donc j'ai lu pas mal de textes qu'il a pu écrire. Et en fait, lui, je crois, c'est un enfant qui a été déporté, ou sa famille, ou je sais plus trop quoi. Donc il explique un petit peu, il a dégrossi toutes ces choses liées au traumatisme. Et lui, pareil, ça m'a pas mal aidé. Et après, il y a plein de livres que je lis.
C'est déjà pas mal, hein, peut-être. Normalement, je demande une ressource, donc t'inquiète, t'en as donné 5-6, donc je les mettrai toutes dans les notes du podcast. Et voilà. Du coup, la dernière question que je vais te poser, c'est la question signature que je pose à tous mes invités. Ça signifie quoi pour toi, prendre le pouvoir de sa vie? Prendre le pouvoir de sa vie.
Prendre le pouvoir de sa vie? Bah, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est que... Dans la vie, en fait, tu te rends compte que tout ce que tu fais, tout ce que tu dois générer, c'est à toi de le provoquer. Je pense qu'il faut être soi-même, il faut être authentique. Tu triches pas, tu t'apprends toi-même, t'apprends des autres, t'essaies de nourrir ton champ de connaissances, de nourrir ta réflexion. Moi, je suis pas le mec le plus intelligent, je suis pas le mec le plus cultivé, hein. Sinon, ça se saurait et j'aurais mieux réussi mes études au lycée, tu vois. Mais ouais, il faut à un moment se mettre une petite rigueur, il faut se mettre des petites routines, il faut se mettre des petits trucs qui te font que, il faut s'inspirer de certaines personnes. Et tout ça fait que... Et après, moi, il y a un mot que j'utilise beaucoup aussi, c'est être proactif dans sa vie, c'est-à-dire que les choses, elles viennent pas à toi comme ça. C'est pas le fruit du hasard. C'est à toi de provoquer les choses, c'est à toi de... Enfin, tu vois, genre quand on me propose d'aller faire une interview, un machin, un truc, bah des fois, c'est compliqué pour moi d'y aller. C'est beaucoup d'organisation en plus en fauteuil parce que voilà, faut que je m'organise pour dormir à l'hôtel, pour ceci, les soins infirmiers, faut que j'appelle 50 cabinets libéraux pour savoir s'il y en a une qui peut venir le matin et tout. Enfin, toi, c'est des trucs compliqués. Et pour aller genre faire une conférence à Paris ou un machin, mais je me dis, vas-y, t'y vas et tu verras bien. Et même si tu vois, genre des fois, parler devant des gens, je suis pas hyper à l'aise, et bah j'apprends à me dire, même si je suis pas à l'aise, j'y vais, tu vois. Parce que j'ai besoin de me faire violence, j'ai besoin d'apprendre de Pourquoi j'arrive pas à parler devant les gens, tu sais, j'ai besoin de savoir pourquoi, j'ai besoin de comprendre pourquoi j'y arrive pas, pourquoi j'y arrive mieux, et en fait, bah, toute ta vie, c'est ça en fait. Tu travailles tout le temps sur toi-même. Et voilà, donc pour moi, prendre le pouvoir de sa vie, c'est être proactif et provoquer les choses. Tout
trop simplement. Cool. Trop cool. Bah, merci beaucoup, Martin, d'être venu sur InPower. Ça m'a fait très plaisir, bah, d'en savoir plus sur toi et sur ton histoire. Je pense que ça va inspirer beaucoup de personnes. Je mettrai dans les notes du podcast tous tes réseaux où on peut te retrouver. Et merci encore et j'espère à très vite.
Merci, Louise. Salut.
Merci beaucoup de vous être joints à nous pour cette conversation avec Martin. Si elle vous a plu, vous pouvez nous le faire savoir en partageant un post ou une story en nous taguant @elmartitsino et @mybetterself pour qu'on puisse le voir et échanger avec vous. Vous pouvez aussi envoyer l'épisode à des amis qu'il pourrait inspirer et je vous remercie sincèrement d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, on voit qui sont les vrais. Je vous embrasse fort, prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode d'InPower.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.